Il est 8h20 minutes. Katia Gagnon, bonjour.
Salut Louis.
Alors, on va parler d'un sujet qui est très polarisant. Et ça, c'est blanc ou noir. Ça, c'est un sujet comme celui-là. On parle de décriminaliser la possession de drogue. Mais attention là, on parle de la possession simple. On parle pas de Pablo Escobar qui se promène avec 12 kilos de cocaïne dans sa voiture, là.
Non, c'est ça. C'est l'Association des chefs de police et la Colombie-Britannique qui ont fait revivre, dans le fond, une proposition qui revient régulièrement dans le débat public, donc de décriminaliser la possession simple. Hein? Ouais. C'est ce que tu dis, c'est très important. Là, c'est pas, on parle pas là, de trafiquants puis de donner l'immunité à des gens là, qui possèdent des quantités importantes de drogue. On parle pas non plus de légaliser, hein, on parle de décriminaliser, pas de légaliser. Donc, c'est pas comme le cannabis, là. Il y aurait pas de société québécoise, ouais. De la cocaïne, là. Non, ça existera jamais. Ce qu'on dit, c'est quand, par exemple, la police est confrontée à un usager qui a une petite quantité de drogue, quelle que soit la drogue sur lui, donc qui est clairement là, destiné à une consommation personnelle, ben cette personne-là, plutôt que de l'envoyer, plutôt que de l'arrêter, de l'accuser et de l'envoyer dans le système judiciaire, ben on la traiterait autrement, on l'enverrait plutôt dans des ressources pour traiter son problème de dépendance. Bon, ce débat-là, il revient effectivement régulièrement. Je te rappelle que c'est dans le programme du Parti libéral, oui. Du Canada, hein, cette décriminalisation de toutes les drogues. Les délégués ont adopté ça en 2018. Il y a un an, même chose, un comité parlementaire avait fait cette recommandation-là en disant il faut examiner ce modèle-là. La Colombie-Britannique, évidemment, elle propose à cause de la crise des opioïdes là, qui sévit dans cette province-là, qui a fait donc depuis le début de l'année 700 morts plus depuis le début de l'année donc en Colombie-Britannique. Donc c'est plus que la COVID là. Hein?
Ouais. C'est en moyenne autour de 140-150 morts par mois là-bas qui sont liés au fentanyl entre autres choses.
Exact. Ouais. Donc, grosso modo, là, depuis 4 ans au Canada, il y a eu 15 000 morts avec cette crise des opioïdes, ce qui est quand même énorme.
Oui. T'sais?
Bon, donc là, à date, ce qu'on a comme système à date, c'est ce que ça envoie donc tous ces gens-là dans le système judiciaire. Évidemment, ça cause un certain engorgement des tribunaux, en plus de faire agir la police, on pourrait dire de la divertir un peu de ses missions de base, là, qui est de contrer la criminalité, en arrêtant un usager de drogue. Est-ce que la police vraiment fait le travail qu'on devrait lui voir faire? Parce que si tu regardes les chiffres, là, c'est quand même costaud. Là, en 2018, il y a eu 30 000 cas de possession simple au Canada. Fait que ça, c'est des milliers de personnes-là rentrent dans le système judiciaire et là, on commence un processus qui peut être long et très peu dissuasif. Hein? Et c'est ça l'idée de décriminaliser. C'est pour ça que c'est la police qui propose ça. C'est parce que il faut changer le paradigme sur les usagers de drogue là. Plutôt que d'en faire un comportement criminel, dans le fond, il faut traiter ça comme un problème de santé publique,
c'est ça. D'ailleurs, oui.
C'est ça la dépendance, à toute forme de dépendance. Là, je ne parle pas juste des drogues, là, on parle des drogues ce matin, mais n'importe quelle dépendance, c'est un trouble de santé mentale. Donc, plutôt que d'être arrêté puis de passer en cour, ben ces gens-là devraient, à mon avis, c'est une proposition qui est tout à fait sensée, être dirigée vers des lieux de traitement. Bon, ça suppose, c'est très important, ça suppose qu'on redirige les sommes, dans le fond, qu'on consacre présentement au passage de ces gens-là devant les tribunaux à offrir des traitements. Parce que présentement, si on regarde le Québec, là, ce qu'on a comme système en traitement de la dépendance, là, c'est très loin d'être optimal. Fait que si on adoptait cette proposition révolutionnaire-là, ben franchement, j'en doute, oui, parce que comme tu as dit au début, on est c'est une proposition qui est très polarisante et qui a très peu de chances de se concrétiser. Mais si on offrait cette proposition-là, ben il faudrait offrir là une réelle alternative de santé. Hein?
Bon, est-ce que ça a été essayé quelque part dans le monde? Est-ce que ça fonctionne ailleurs pour qu'on puisse avoir un comparable?
Oui, c'est ça qui est la beauté de l'affaire. On a un exemple vraiment probant hein, qui, depuis donc le début des années 2000, a procédé à exactement cette réforme-là, c'est le Portugal. Donc, le Portugal est devenu le premier pays européen à faire ce virage-là. Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que dans les années 90, ils ont eu une crise majeure, là, c'était surtout de la consommation d'héroïne à l'époque qui était problématique. C'est à peu près 100 000 personnes qui étaient accros à l'héroïne au Portugal à cette époque-là. Et on avait donc au plus fort de la crise eu à peu près un décès par jour par overdose. Mm-hmm. Donc, il y avait une personne chaque jour qui mourait au Portugal par overdose, principalement d'héroïne. Alors, on a pris les grands moyens, dans le fond, on a adopté ça. Décriminalisons toutes les drogues et redirigeons les gens vers des facilités de traitement. Et les résultats, ils sont réellement probants. Puis là, ça fait plusieurs années, on peut pas dire que c'est quelque chose de passager. Alors, en 2000, tu vois, on avait 360 décès au plus fort de la crise, puis en 2016, on n'avait rien que 26.
OK, mais il y a un effet direct, oui.
On a baissé ça là de façon absolument radicale. Et puis, si tu compares à la situation canadienne, là, on parle pas d'héroïne nécessairement, mais on en a eu 4000 décès juste en 2018. Donc, si on appliquait, tu sais, le Portugal a 10 millions d'habitants, puis le Canada en a deux fois plus, mais bon, il y aurait, on peut présumer que si on inventait le modèle portugais au Canada, il y aurait une baisse majeure de ces décès-là. Donc, comment ça fonctionne au Portugal? Quand la personne est arrêtée, bien sûr, avec une petite quantité, je le répète, là, il n'est pas question d'exonérer du trafic de drogue. Donc, cette personne-là doit se présenter devant un panel d'experts qui recommande un traitement. Et les services, ça c'est très important, sont accessibles. Il n'y a pas une liste d'attente de 6 mois. Et gratuits. Donc, ça ne coûte rien parce que ces gens-là, généralement, c'est pas des gens qui ont des gros moyens. Donc, ils ne peuvent pas se payer des traitements qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Bon, malgré tout, et c'est ça qui est dommage, Louis, c'est que cette proposition-là des chefs de police, c'est pas la première fois qu'ils disent ça, ils répètent régulièrement depuis des années. Cette proposition-là a très peu de chances de fonctionner parce que politiquement, c'est une bombe, c'est proposer ça à la population, décriminalisons les drogues. Évidemment, ça fait peur. Les gens ont peur, voyons donc, décriminaliser l'héroïne, puis voyons donc, décriminaliser la possession de cocaïne, qu'est-ce que c'est ça? Ce qui fait que le gouvernement Trudeau et la plupart des provinces montrent très, très peu d'enthousiasme. Le Devoir a fait une petite tournée des grands-ducs il y a deux jours pour voir sonder l'intérêt. Oui. C'était très, très peu. Il n'y avait pas d'intérêt de personne sauf la Colombie-Britannique. Puis c'est ça un peu qui est le paradoxe de la politique, Louis. Tu sais. C'est une bonne idée qui est appuyée par les chercheurs et par les faits, mais c'est trop difficile à vendre au grand public.
Oui, c'est ça.
Ça a des grosses chances de ne pas marcher.
Mais exactement. Les sujets polarisants, là, généralement, là, c'est très difficile à vendre sur le plan politique parce que tu vas t'aliéner à moitié de la population, tu sais.
Puis, c'est un sujet qui demande tellement d'explications. On décriminalise, on légalise, puis là, les gens ont en tête aussi toute l'expérience du cannabis, qui est complètement différente. Là, ça serait pas ça du tout. Mais, donc, les gens vont automatiquement faire l'équation. On va faire la même chose qu'avec le cannabis, qui serait pas du tout le cas, parce qu'évidemment, là, c'est sûr que ça aurait pas de bon sens. Donc, il y aurait inévitablement une confusion dans l'esprit des gens. Puis, défaire ça pour un politicien, là, c'est beaucoup d'ouvrage pour gagner quoi exactement en termes de capital politique. C'est la bonne chose à faire, mais c'est malheureusement pas ça qui va se faire.
Exactement. Au moins, ça amènera une autre réflexion là-dessus. Des fois, c'est en faisant des petits pas qu'on avance.
Effectivement. Ouais. Si on regarde la question du cannabis, ça a été ça. Hein. Pendant des années, on a parlé. Combien d'années de débats ça a pris avant qu'on en arrive à cette solution-là, qui aurait été jugée complètement radicale, disons, il y a 20 ans. Ça aurait jamais été acceptable. Peut-être qu'à un moment donné, à force justement de faire ce débat-là et de présenter des faits, on va en arriver à convaincre une partie de la population.
Voilà. Merci beaucoup, Katia. À demain.
C'est moi qui te remercie. Bye-bye.
Katia Gagnon. Sur la route 132, Linda.